Radio Okapi. Écho des développements.
Bienvenue dans Écho du développement. Votre magazine de promotion des questions de l'environnement et du développement durable sur Radio Okapi qui se penche aujourd'hui à la promotion de la pêche artisanale et de l'aquaculture durable en Afrique. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou, Jean-Marc Matoua qui supervise et coordonne ces numéros et Sylvain Matundou s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute des codes du développement.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiokapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Les petits pêcheurs, les éleveurs de poissons, les mareyeurs et les autres ouvriers du secteur de la pêche jouent un rôle non négligeable dans la sécurité alimentaire et dans la lutte contre la pauvreté dans plusieurs pays africains. Ce secteur fait cependant face à plusieurs défis à caractère organisationnel. Les experts constatent de plus en plus la rareté des ressources halieutiques, la spoliation des zones défrayères et la non-application de la réglementation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans plusieurs nations africaines. Un autre défi majeur qu'il faut prendre en compte est la pollution des cours d'eau par les déchets en plastique et ses conséquences sur la survie des ressources aquatiques. Quelle est l'importance de l'organisation de la filière de la pêche artisanale et de l'aquaculture durable en Afrique? Quel est le rôle que jouent les pêcheurs artisanaux et les pisciculteurs dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les pays en voie de développement? Et quelles sont les menaces auxquelles ce secteur fait face? Vous aurez de plus amples informations sur ces questions au cours de ce numéro des codes du développement tourné à Agadir au Maroc lors du séminaire atelier des formations des journalistes et communicants sur la pêche et l'aquaculture durable. Nous allons planter les décors avec les constats de Monsieur Gaoussou Gueye, président de la Confédération africaine des organisations des pêches artisanales, COAPA en sigle. Selon cet acteur de la société civile, le secteur de la pêche artisanale est confronté à beaucoup de problèmes, notamment la baisse de la quantité de ressources halieutiques d'une part et certaines pratiques illégales de pêche dans les zones maritimes africaines qui ne concourent pas au bon renouvellement naturel des poissons et autres espèces aquatiques. Nous allons l'écouter.
C'est une situation, je ne dirais pas inquiétante, mais une situation par laquelle les gens doivent beaucoup faire attention. Du point de vue de la rareté de la ressource, avec des menaces sur des navires étrangers qui viennent soit sous accord, sous société mixte, ou bien même des pratiques illégaux de pêche qui font des incursions dans les zones de pêche réservées à la pêche artisanale. Et il faudrait comprendre que la pêche artisanale dans nos pays joue un rôle extrêmement important dans le cadre de la création d'emplois, de sécurité alimentaire et même de participation dans l'économie de nos pays. Parce que 80% de la mise à terre des débarquements au niveau de ces pays, c'est la pêche artisanale.
Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la pêche à petite échelle, appelée également la pêche artisanale, est extrêmement importante pour la sécurité alimentaire mondiale, les moyens de subsistance de plusieurs ménages et le bien-être des nombreux pêcheurs ainsi que des nombreux ouvriers dépend de ces métiers. Cependant, les ressources halieutiques se raréfient à cause de la surexploitation et de certaines pratiques prohibées dans les différents cours d'eau africains. Le professeur Moutambou Chango, expert en écologie du milieu aquatique, évoque par exemple la baisse de la capture des poissons dans les poules malébo et la hausse des demandes des ressources halieutiques dans les zones urbaines de la RDC.
Dans les années 60, nous étions les premiers, même en Afrique, en pêche de capture. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la surexploitation. Alors, je me demande si même la pêche artisanale en question apporte quelque chose à la population. Je vous donne un exemple. En 1889, Kinshasa avait à peine 4000 personnes qui pêchaient de Maluku jusqu'à Kinsuka. Aujourd'hui, nous sommes 17 millions et quelque chose. Nous pêchons sur le même tronçon. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver dans cette portion du fleuve? Et on ne pêche pas seulement, mais on construit des cités, telles les cités du fleuve, qui a détruit je ne sais pas combien d'hectares, de zones de frayeur, de zones de repos, les nursing de poissons. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut trouver vraiment du poisson à pêcher sur le fleuve ici à Kinshasa? Et en plus de ça, je vous disais dans une des émissions que le gouvernement a mis à notre disposition des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le moustique. Mais nous utilisons ces moustiquaires pour attraper les alevins, pour polluer l'eau. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver, eu égard à tout ça, pour développer la pêche? C'est là où j'ai dit la pêche, oui, mais encore beaucoup de points d'interrogation.
40 millions de personnes participent directement aux pêches des captures dans le monde selon les Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle. Ce chiffre passe à 120 millions si l'on tient compte également des personnes impliquées indirectement d'après la Banque mondiale. Ce secteur mérite une organisation structurelle et réglementaire d'après Gaoussou Gueye, président de la COAPA.
Ce que nous venons de voir, ça répond exactement avec le premier instrument international dédié à la pêche artisanale, qui sont les directives volontaires de la pêche artisanale. Et en même temps, nous sommes dans le cadre de l'année internationale de la pêche artisanale. Donc, encore une fois de plus, je remercie la COMAFAT. Et tout à l'heure, j'ai dit au secrétaire exécutif, on va voir comment organiser une manifestation pour les pêcheurs, les femmes, les communautés côtières pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que ça, c'est un exemple patent.
Je rappellerai tout simplement que la COMAFAT, c'est les États qui sont membres de la COMAFAT.
Voilà.
Nous, c'est au niveau organisationnel et professionnel. Mais dans la charte de la COAPA, le premier article, nos premiers partenaires, ce sont nos États. Parce qu'on ne peut rien faire sans nos États.
Très bien. En tout cas, je pense que entre la COAPA et la COMAFAT, c'est maintenant une longue histoire d'amour.
Voilà, on va la perpétuer. On mettra Moustapha à contribution pour la causation, les conditions de travail et tout ça pour aller rapidement vers la non-conversion.
Pour promouvoir la collaboration dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, les États africains se sont décidés depuis 1973 de mettre en place la COMAFAT, qui est le sigle de la Conférence interministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique et la lutte contre la pêche illicite et non réglementée en Afrique. Suivons les explications de monsieur Abdelouahed Benabou, son secrétaire exécutif.
Ben, effectivement, justement, c'est pour promouvoir la coopération dans le domaine des pêches. Et quand je dis domaine des pêches, c'est vraiment sur toute la chaîne de valeur. Ça va de l'extraction de la pêche jusqu'à la transformation, l'exportation, la commercialisation en général.
J'estime que la COMAFAT a été créée sur base d'un constat qui a été fait sur terrain. Une idée sur ces constats?
Vous savez, la COMAFAT, elle a aujourd'hui 33 ans. Et quand on examine sa convention de création, dite aussi convention de Dakar, puisqu'elle a été adoptée à Dakar, c'est que vraiment, elle était en avance sur son temps. Toutes ces problématiques de lutte contre la pêche INN existaient déjà, même si à l'époque, on n'en parlait pas tellement. Donc, elle a été bien inspirée de parler de ces problématiques. Malheureusement, elle a connu une phase de léthargie, disons, sur les 15 premières années, par manque d'implication, par manque peut-être... Bon, c'est une question de personne aussi. Mais depuis une douzaine d'années, c'est qu'elle a été redynamisée avec l'octroi de l'accord de siège avec le Royaume du Maroc, puisque le siège est basé au Maroc. Et bien sûr, dès qu'elle a pu bénéficier de cet accord de siège, elle est devenue une organisation intergouvernementale avec statut diplomatique. Et donc, elle a pu aussi être connue et pouvoir bénéficier d'appuis financiers de partenaires.
dans le mode de fonctionnement, pouvez-vous nous faire une idée comment ça fonctionne en termes relationnels entre États?
Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des organes. Les organes, c'est d'abord la conférence des ministres. Donc, c'est au niveau du ministre qui se réunissent théoriquement tous les deux ans. Mais bon, avec la crise du Covid ces dernières années, on n'a pas pu respecter la régularité de ces rencontres. Mais c'est au niveau de ces conférences des ministres où il y a un plan d'action stratégique qui est convenu. Et donc, il y a le bureau qui est appelé pour un petit peu assurer la mise en œuvre de ce plan d'action stratégique. Et le secrétaire exécutif qui est la cheville ouvrière et donc qui est chargé de la mise en œuvre de toutes les actions prévues dans le cadre de ce plan d'action.
Et pourquoi Comafat accorde un intérêt particulier aux journalistes dans le cadre des activités maritimes de la région?
C'est parti déjà, comme je disais hier, d'un constat, c'est que de par mon expérience depuis déjà une trentaine d'années dans le secteur des pêches, j'ai participé à des forums qui traitent de la pêche, à des organisations de gestion de pêche telles que l'ICAT, participer aussi à l'IFAO. Malheureusement, il y a très peu de journalistes africains qui relaient l'information, en tout cas les problématiques qui sont traitées au niveau de ces organisations. Et donc, à mon avis, c'était une lacune qu'il va falloir vite combler, dans la mesure où il nous faut une presse spécialisée dans les affaires de halieutiques pour qu'il puisse relayer d'abord l'information traitée au niveau international, mais surtout relever, tirer la sonnette d'alarme, encadrer, promouvoir, sensibiliser les populations locales, même les institutions, les administrations sur des choses qui, moi je pense que le secteur de la pêche traverse, en tout cas est confronté à un certain nombre de défis tels que les changements climatiques, la surexploitation, la pollution marine et qu'est-ce que j'en sais d'autre, pas mal. Et donc je pense que l'implication de la presse en tant qu'organe, d'information, un rôle à jouer. Il devrait être plus présent et plus actif sur ce plan-là.
Vous nous écoutez déjà en FM sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous écoutez en ce moment Écho du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et développement durable qui s'intéresse à la promotion de la pêche artisanale et de l'aquaculture durable en Afrique. C'est une émission que nous avons tournée dernièrement à Agadir, au cours du séminaire atelier organisé par la Comafat à l'intention des journalistes et communicants, membres de l'Observatoire pour la pêche durable en Afrique, OMPDA en sigle. Dans ce magazine, nous allons partager avec vous l'expérience du Royaume du Maroc dans le cadre de la promotion de la pêche artisanale et industrielle. La pêche artisanale et industrielle au Maroc repose bien évidemment sur la formation académique dans les facultés qui organisent des filières telles que la mécanique marine, la pêche maritime ainsi que les départements de la valorisation des ressources halieutiques. Le premier cycle comporte 3 ans de formation et le second cycle dure 2 ans. Suivons les explications de Monsieur Mohamed Mahamou, directeur de l'Institut supérieur des pêches maritimes d'Agadir, ISPM en sigle.
C'est quoi l'Institut supérieur des pêches maritimes? Comme a été soulevé, donc c'est un institut de formation technique, formation pratique, qui assure la délivrance du diplôme Bac plus 3, ce qu'on appelle la licence, et Bac plus 5, ce qu'on appelle le master. Cette année, on a organisé le cycle master administration des affaires des pêches maritimes, et l'année prochaine, Inch'Allah, on va démarrer un autre cycle master sur la qualité. Donc, ici, on assure la formation de 3 filières, filière mécanique marine, pêche maritime, c'est-à-dire on parle au commandement et le pont, et puis le traitement et valorisation des produits de la pêche. Donc, pour le cycle 1, licence de pêche, elle est articulée sur 6 semestres, 6 semestres, S1, S2, S3, S4, S5 et S6, et se traduit bien entendu à la fin par la délivrance d'une licence. Et le cycle master qui s'articule aussi sur 4 semestres, première année, deuxième année, et se traduit par la délivrance du diplôme master qui permet à son titulaire d'accéder bien sûr au cycle supérieur pour préparer son doctorat et pourquoi pas. Donc voilà, grosso modo, on développe, bien sûr, on a développé des partenariats avec l'ensemble des instituts, notamment à l'échelle européenne et à l'échelle africaine. Le SPRM fait partie du REFMA, réseau d'établissements de formation maritime africain, et du REF aussi, ce réseau des pays francophones, des pêches maritimes francophones, et les membres aussi toujours actifs dans le secteur de la pêche à l'échelle africaine, à l'échelle internationale. Bien entendu, pour l'accès, l'SPRM, donc c'est les conditions, parmi les conditions exigées principales, c'est le baccalauréat des sciences scientifiques. Et voilà, le régime des études, c'est presque, je ne dirais pas purement paramilitaire, mais c'est assimilé. Hein. Donc le régime, c'est internat. L'effectif, bien sûr, le pourcentage octroyé aux étrangers, c'est à 10% parmi l'effectif global, mais on a dépassé pour ces deux dernières années, donc on peut aller jusqu'au 15-12% à même, pourquoi pas 20 pour cette année, c'était un cas particulier, on a trouvé un chiffre vraiment important, mais avec la pandémie, je pense que les candidats, bien des pays, n'ont pas pu répondre ou envoyer leur étudiant au moment opportun.
Hormis la formation académique, les gouvernements marocains ont aussi mis en place des centres de recherche spécialisés dans la valorisation des produits de la mer. Suivons cette fois-ci les explications de Madame Mariem Karoubi, directrice chef du laboratoire des biotechnologies du centre spécialisé de vulgarisation des produits de la mer d'Agadir.
Sachez que le centre de valorisation a pour vocation le développement de nouveaux produits et la diversification de la production halieutique. Nous sommes également au service de l'alio-industrie pour des prestations de services et nous faisons également de la recherche et développement en génie alimentaire et en biotechnologie et notre mission c'est l'accompagnement et l'appui très personnalisé des alio-industries. Après plusieurs années, le centre a acquis une certaine notoriété et une certaine maturité scientifique qu'il est prêt aujourd'hui à transférer à nos amis africains. L'accueil des chercheurs et des cadres africains ne date pas d'hier. Hein. C'est une longue tradition au centre de valorisation et nous nous ferons un plaisir de raffermir le lien avec les pays africains.
Le Maroc est en train de développer aussi un vaste programme d'aménagement des ports publics, d'embarquement des pêcheurs artisanaux sur les rives de l'océan Atlantique afin d'améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux et de lutter contre la pêche illicite et illégale sur sa zone maritime. Suivons l'extrait d'une visite guidée que la Comafat a organisée à l'intention des journalistes dans l'un de ses ports publics d'embarquement construit récemment à Agadir.
On essaie de regrouper dans le même lieu des utilitaires, en fait, comme la conserverie, une administration, pour l'avitaillement en général, pour l'approvisionnement en gasoil, pour des travaux d'un atelier de réparation, tout ça pour permettre d'améliorer les conditions de débarquement des marins pêcheurs. C'est plutôt destiné à la pêche artisanale et ça permet également de canaliser tous les débarquements, donc de pouvoir assurer un débarquement dans des conditions d'hygiène acceptables et aussi pour assurer un meilleur suivi des débarquements et de traçabilité pour les produits, parce que tous les produits débarqués, on va voir, ils vont passer par la halle, puis ils vont être suivis, déclarés, avec un certificat qui va leur suivre jusqu'à l'assiette. En gros, c'est ça. Et donc, ce sont des infrastructures qui ne nécessitent pas beaucoup de capitaux. Donc, d'ailleurs, je pense que le Maroc a prévu un programme d'une soixantaine de points de débarquement sur les 3500 km de côte. Et là, je pense qu'on est à 45 qui sont réalisés. Une partie est en cours de finalisation. Et moi, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'essentiel. Et je pense que nos amis vont nous aider si vous avez besoin de plus d'explications. Ce qui est important, c'est qu'au lieu que les débarquements se fassent d'une manière sauvage, éparpillés, que les marins pêcheurs vont débarquer soit un petit peu dans des contraintes physiques ou carrément avec les marées, tout ça. Et c'est pour ça que les marins, par eux-mêmes, viennent débarquer. Parce que non seulement c'est plus facile, mais surtout, ça leur permet d'avoir un certain nombre de services qui sont mis à leur disposition. Il y a même parfois ce qu'on appelle des antennes médicales, ce qui leur permet de faire des visites médicales, d'améliorer leur... Parmi les facilités, comme je disais, il y a une station de carburant pour permettre aux barques d'avoir leur approvisionnement. Vous avez également des magasins où les pêcheurs peuvent entreposer leurs filets, leur matériel en général. Vous avez une salle de prière aussi, qui est ouverte aujourd'hui pour ceux qui souhaitent faire leur prière, mais bon, on n'est pas encore arrivé à Salat al-Dawr. Et également d'autres magasins. Donc on continue notre tournée.
Ça c'est l'air dortoir, hein?
Non, c'est des magasins, théoriquement. Mais je vois qu'ils sont un petit peu déviés de leur mission première. C'est des...
pour se reposer.
Ouais, c'est aussi dans le repos. Pour se reposer. Ça c'est le bloc sanitaire.
Ouais, des douches, des toilettes, c'est, tout ça contribue au confort. Et, le principe c'est d'impliquer les marins pêcheurs dans la gestion. Dans un premier temps, c'est normal, c'est des, l'autorité avec les qui prend en charge. Parce que la réalisation de l'investissement est pris en charge totalement par l'État. Donc, généralement, c'est le terrain doit être un terrain. Il faut aussi une adduction d'eau. Il faut que ce soit connecté au réseau routier. Tout ça, c'est des facilités pour permettre la commercialisation des produits facilement. Et la gestion, dans un premier temps, comme je disais, c'est l'État. Mais progressivement, elle est confiée aux professionnels, c'est-à-dire aux utilisateurs de ces, notamment des marins pêcheurs, qui souvent sont constitués en coopérative de pêcheurs. Vous voyez, c'est pas très grand, il n'y a pas de gros investissements, il n'y a pas de matériel, mais toutes les facilités sont là.
Comment se fait le triage, la conservation et la vente des poissons capturés par des pêcheurs artisanaux dans ce port public d'embarquement? Un des agents de ce port public d'embarquement des pêcheurs artisanaux répond.
Après la pesée, il y a une déclaration de capture qui va être édifiée par le service de la délégation des pêches maritimes. Donc, c'est ça la déclaration de pêche. Donc, il y a toutes les informations relatives à la barque, le poids, l'espèce, la date de la marée. Il y a un truc que je voudrais vous dire, c'est que une fois que les débarquements sont nombreux et que la halle n'est pas encore, la crise n'est pas encore commencée, il y a une chambre froide positive ici. C'est pour garder la qualité du poisson et ne pas avoir un poisson de faible qualité. Donc, au cas où il y a beaucoup de débarquements, il y a une chambre positive pour le maintien de la fraîcheur du poisson. Après déclaration et pesée, ce poisson, il va être étalé au niveau du carreau. On appelle un carreau pour la crier. Donc, les enchères, il y aura des enchères au niveau de la halle. Après les enchères, il va être adjugé pour celui qui donne le plus. Il y a ce qu'on appelle l'état de traçabilité des achats. Et toutes les informations qui sont au niveau de cet état de traçabilité ainsi que la déclaration de capture, elles sont stockées dans un système pour pouvoir gérer toute la chaîne depuis le débarquement jusqu'à l'exportateur ou bien le consommateur. Pour information, il y a une marche en avant pour bien garder la qualité du poisson et pour ne pas avoir des circuits qui se chevauchent. Donc on a une marge en avant pour les produits, il y a l'entrée, la criée, après la sortie. Et avant de sortir, s'il y a un premier moulin, il y a une chambre froide aussi.
Est-ce que toutes les productions sont vendues aux enchères?
Oui.
Tout ce qui débarque ici, c'est vendu aux enchères.
2022 est une année que la FAO a dédiée à la promotion de la pêche artisanale et à l'aquaculture. Les journalistes doivent, de ces faits, assurer une large couverture des activités de la pêche et de l'aquaculture, car ces deux activités professionnelles jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire dans les pays africains, ajoute Gaoussou Gueye, nous rappelant qu'il est le président de la COAPA.
Où les journalistes doivent beaucoup s'orienter vers les questions de la pêche et surtout artisanale. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a cette année, c'est l'année internationale de la pêche artisanale. Et peu de journalistes savent que réellement, cette année-là, elle a été votée et autorisée par les Nations Unies à travers la FAO pour son exécution. Et l'Afrique doit jouer un rôle extrêmement important. En dehors de ça, il y a deux instruments extrêmement importants pour la pêche artisanale, à savoir les directives volontaires pour une pêche artisanale durable, pour l'éradication de la pauvreté et assurer une meilleure sécurité alimentaire.
Et cette année, c'est la journée, c'est l'année de la promotion de la pêche artisanale. Votre coalition, votre confédération, l'OMPDA et la COMAFAT, quelles sont les activités que vous comptez organiser ensemble dans le cadre de cette année dédiée à la promotion de la pêche artisanale?
D'abord, déjà nous, au niveau de la COAPA, on a déjà axé notre intervention sur trois priorités. L'accès à la ressource, les conditions, l'amélioration des conditions de vie et de travail des communautés côtières, surtout des femmes, et aujourd'hui, la stratégie de croissance bleue. Parce que quand on parle de croissance bleue, il y a des menaces sur le pétrole, le gaz, ainsi de suite, qui risquent de faire disparaître la pêche artisanale. Et c'est des éléments sur lesquels, donc nous, on doit porter un très grand plaidoyer, et on ne peut pas le faire seul. C'est pour cela que j'ai dit, il faudrait qu'il y ait une stratégie à mettre en place et une bonne collaboration entre l'OMPDA, la COMAFAT et pourquoi pas les autres institutions africaines pour rendre encore plus visible la pêche artisanale africaine et son importance. Je disais tantôt des instruments de la FAO à travers les directives, mais là également, il y a une stratégie de réforme de la politique africaine des pêches au niveau de l'Union africaine. Et tout ça, ça doit être vulgarisé pour que ça soit bien comprise d'abord et bien approprié d'abord par vous, les communicateurs, les hommes des médias, et pour pouvoir les transmettre au niveau des communautés et des populations.
Oui, en même temps aussi, vous avez dit à un moment donné que le... Enfin, les ressources ne sont plus assez abondantes. Même les pêcheurs, lorsqu'ils vont dans nos cours d'eau, dans l'océan pour la capture, la moisson n'est pas assez abondante. Ne pensez-vous pas que c'est aussi important d'encourager l'aquaculture d'autre part pour essayer d'équilibrer un peu les choses?
Mais je suis tout à fait d'accord, parce que quand même les pêcheurs vont de plus en plus loin, la ressource se raréfie, donc il y a des risques, il y a même la sécurité de ces pêcheurs-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec l'aquaculture, mais pour nous et pour moi, il faut faire attention à l'aquaculture. Pourquoi je dis ça? C'est bien de faire une aquaculture, mais si c'est une aquaculture intensive, industrielle, qui va se baser sur la farine de poisson, ça va poser des problèmes. Pour moi, il s'agit tout simplement de déshabiller Jean et pour habiller Paul. Parce qu'on ne peut pas nous demander d'aller vers une pêche durable, d'aller vers des essayants saines et durable et respectueuse de l'environnement, et à côté, prendre du poisson frais pour en faire de la farine.
Il existe des accords de partenariat entre le Maroc et les pays de l'Afrique subsaharienne dans les domaines halieutiques qui méritent d'être capitalisés en termes de partage d'expériences entre les différents corps de métiers œuvrant dans les secteurs maritimes, conclut Abdelouahed Benabou. Nous rappelons qu'il est le secrétaire exécutif de la COMAFAT.
Je pense que depuis longtemps, le Maroc je crois en savoir à l'époque, il y avait 16 accords de partenariat avec des pays subsahariens dans le domaine halieutique. Et je pense que, bon, il n'y a pas un véritable dépassement, mais je pense que c'est à la portée de tous. Et c'est un bon exemple de partenariat Maroc et pays subsahariens, parce que le Maroc est aussi africain. Mmh. Il y a pas mal de similitudes, il y a pas mal de, au niveau de développement, il n'y a pas un grand écart avec des autres pays. Et donc, c'est quelque chose de possible. Donc, si le Maroc a réussi, pourquoi pas des autres pays? Et je pense que ça, c'est mon vœu, et en tout cas, c'est mon espoir et mon ambition, c'est de pouvoir contribuer à cette collaboration entre le Maroc et des autres pays, même si on a d'autres, même si le Maroc aussi a beaucoup à apprendre sur certains aspects de, des autres pays subsahariens.
C'est par ici que s'achève Code du développement consacré à la problématique de la promotion de la pêche artisanale et de l'aquaculture durable en Afrique que vous a présenté Tati Mapoukou. Jean-Marc Matois qui a coordonné et supervisé ce numéro et Sylvain Matundu était à la prise des sons. Retrouvons-nous pour un nouveau rendez-vous le jeudi prochain. À bientôt.